Salut à tous, merci de nous écouter ce soir. On est le petit projet de radio de notre matière. Donc nous sommes de l'Université technologique de Compiègne. Et là, nous allons débattre aujourd'hui sur le domaine de l'espace. Alors du coup, pour cela, on a fait un petit sondage auprès des étudiants de notre école pour savoir si l'espace, ça les intéressait, quand on parle de l'espace d'un point de vue surtout scientifique. Du coup, on a fait quelques petites questions. La première, on voulait savoir si les étudiants étaient intéressés par l'espace ou non. Du coup, la première question est, êtes-vous intéressé par l'espace? Il y a environ la bonne moitié des étudiants qui est intéressé par l'espace, ça fait 56%. 36% sont moyennement intéressés par l'espace et moins de 8% ne sont pas du tout intéressés par l'espace. Déjà, est-ce qu'on peut peut-être un peu parler de ce chiffre? Peut-être vous, ça vous paraît normal ou pas que seulement la moitié sont intéressés par l'espace?
Ça me paraît plutôt normal qu'il y ait plus de 50% qui soient intéressés par l'espace, vu le contexte, on est dans une école d'ingénieurs, avec des branches qui vont vers l'ingénierie mécanique et donc l'aéronautique et tout ça, et donc ça les intéresse forcément, vu que c'est des domaines dans lesquels peut-être ils vont travailler. Mais après 50%, je m'attendais peut-être à un chiffre un peu plus haut. Surtout que l'espace, c'est quelque chose qui fait rêver. Et même dans nos sociétés, des gens qui n'ont rien à voir avec l'espace sont intéressés et regardent les lancements de fusées et tout.
C'est vrai que ça serait intéressant, je pense, d'avoir aussi la part à l'UTC des gens qui sont en branche, en IEM, parce que je pense que c'est aussi lié aux gens qui sont un peu intéressés par l'espace. Mais comme tu l'as dit, Ahmed, moi, je me serais attendue à beaucoup plus parce que je trouve que c'est quand même un sujet assez intéressant qui fait quand même partie de l'actualité. Et je sais pas, moi aussi, je me serais attendue à plus quand même.
D'accord, moi, ça me paraît assez logique. Moi, c'est vrai qu'il y a encore que les gens soient moyennement intéressés, je peux le comprendre. Moi, personnellement, je suis moyennement intéressé. Mais 10% qui ne sont pas du tout intéressés, je sais pas, pour moi, l'espace reste quand même quelque chose de fascinant. Toutes les histoires, tous les films, toutes les séries qu'on peut avoir sur ça, je trouve que ça fait rêver. Mais bon, passons à la prochaine question. Du coup, comme on vous l'a dit, on est une école d'ingénieurs, et donc du coup, on voulait savoir s'il y avait certaines personnes dans l'école qui étaient intéressées pour pour travailler dans l'aérospatial plus tard. Et donc, du coup, seulement 15% sont très, très, très motivés pour aller travailler dans le domaine de l'aérospatial. Et presque, du coup, un tiers des personnes ne veulent pas du tout travailler donc, dans le domaine de l'aérospatial. C'est vraiment pas du tout leur avis, leur choix. Et environ, du coup, la moitié se disent pourquoi pas ou pas trop, aux envies un petit peu mitigées. Qu'est-ce que vous en pensez que ça? Est-ce que ça vous paraît normal qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui n'ont pas du tout envie de travailler dans l'espace, alors que seulement 15% qui veulent vraiment travailler dedans?
Moi, ça ne m'étonne pas trop. Je sais que moi, je veux devenir ingénieur, mais honnêtement, travailler dans le spatial, ce n'est vraiment pas le problème actuel, je trouve. Et je pense qu'on peut se concentrer. Moi, par mon avis, c'est qu'on peut se concentrer sur ce qui se passe sur Terre pour résoudre tous les problèmes. Et ensuite, travailler dans l'aérospatial, après, c'est quand même un domaine important et qui fait beaucoup d'avancées. Donc, je ne dis pas de le supprimer, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop de travailler dedans.
Après, la question, c'est est-ce qu'en tant qu'ingénieur, on est là pour résoudre des problèmes ou pour innover et essayer d'avancer? Ça, c'est chacun son point de vue et ce qu'il veut faire en tant qu'ingénieur pour le futur. Du coup, ce que certains veuillent s'intéresser à l'espace et vouloir aller chercher plus haut, littéralement, et innover, ça ne m'étonne pas forcément. Malgré, je suis totalement d'accord qu'il y a énormément de problèmes à régler en bas, en priorité, avant de s'occuper d'innover en haut.
Personnellement, ça ne me choque pas que certaines personnes ne soient du tout pas intéressées par ce sujet ou peu intéressées, dans la mesure que il y a peu de temps, c'était quelque chose d'assez imaginaire, utopique. Ça relevait surtout de la science-fiction. Donc certes, on regardait des gens aller dans l'espace juste pour se détendre et personne n'y pensait réellement à la chose. Même dans le système éducatif, on parle très peu. Certes, il existe des formations après. Il y a très peu de filières comparées à certaines filières axées du coup sur la Terre qui relèvent de l'espace.
Après, je pense aussi, oui, c'est important de parler de l'espace par rapport au fait que c'est chercher l'innovation, chercher des nouvelles solutions, etc. Mais il y a aussi une grosse part de la recherche dans l'espace qui est importante pour ce qui se passe justement, entre guillemets, en bas, comme tu disais, Ahmed. Parce que justement, par rapport à toutes les expériences qui sont faites dans l'espace, on arrive aussi à mieux comprendre ce qui se passe sur Terre. Donc je pense qu'il n'y a pas que innover là-haut, entre guillemets, qui sert. Je pense que ça peut aussi servir à ce qui se passe sur Terre.
Ok, très bien. Après, je pense aussi qu'on a seulement 15% qui veulent travailler vraiment dans l'espace. C'est parce que il n'y a pas vraiment de branche aérospatiale, même si on peut, par rapport à la mécanique, on peut partir dans l'aérospatiale. Par exemple, il y a certaines écoles d'ingénieurs vraiment en France qui, eux, sont vraiment très, très spécialisés dans ça. Je parle par exemple de super-héros. Comment ?
L'ENAC aussi.
L'ENAC, voilà, par exemple, et qu'eux sont spécialisés dans ça. Donc je pense que les personnes qui sont fascinées par l'espace et qui veulent travailler dans ça vont plutôt dans ce genre d'école que plutôt d'aller à l'UTC. Donc du coup, nous, on s'est posé du coup plusieurs répliques, quatre grandes questions par rapport à l'espace. Et on va commencer par une première. Comme vous le savez, on a un problème de gestion des déchets du coup dans le monde. On peut voir par tous les petits déchets plastiques qu'on retrouve un peu partout dans les océans, tout ça ou tout. Ou même que ce soit les déchets un peu plus gros, comme les déchets nucléaires qui sont des fois durs à gérer parce qu'on est obligé de les enterrer. Et d'abord, je voulais savoir un peu, du coup, une question qui se pose. Est-ce que il faudrait qu'on envoie les déchets dans l'espace ? Du coup, j'ai posé cette question aux UTC1 pour savoir un peu leur avis. Et totalement, donc 60% sont hors de question. Ils trouvent cette idée totalement, débile et tout. Parce qu'ils disent, souvent les personnes pensent que le problème, c'est que ça va creuser des problèmes en orbite. Parce que du coup, tous ces déchets vont voler en orbite et peuvent du coup faire des dommages sur tous les satellites. Et il y a aussi le fait que ça coûte beaucoup en énergie, qui est beaucoup relevé. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui trouvent que c'est une bonne solution. Il y en a seulement, sur 90 personnes qui ont voté, il y en a, je ne peux pas le voir, mais je crois qu'il y en a, ouais, il y en a genre 3-4 qui sont pour eux, qui trouvent que c'est une bonne solution d'envoyer des déchets dans l'espace. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Déjà, si on s'attarde sur ce qu'il y a déjà dans l'espace en ce moment, donc faut savoir qu'il y a déjà pas mal de satellites et de restes d'engins qu'on a envoyés dans l'espace. Donc avant de parler même des déchets, on a beaucoup de choses qui sont en rotation autour de notre Terre. Et donc, trois quarts de ces engins spatiaux qui sont en orbite ont fini leur mission. Donc, c'est aussi des déchets. Et donc, ça pose déjà des problèmes pour l'espace, parce que ça peut faire des collisions, ça peut faire des dommages sur d'autres engins. Donc, on voit déjà que même avant d'envoyer nos propres déchets, il y a déjà des problèmes en orbite. Donc, faut faire attention. Tous les objets de plus de 10 cm aujourd'hui sont suivis grâce à des systèmes de surveillance pour pouvoir connaître leur trajectoire et éviter des problèmes ou même que ça vienne se fracasser sur la Terre. Donc, je pense qu'envoyer encore plus de choses et notamment nos déchets, ça serait quand même très compliqué et ça commencerait à faire un bazar pas possible.
Pour revenir sur cette notion du coup, des débris spatiaux qu'on a autour de la Terre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome de Kessler, mais enfin, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc, en fait, c'est un scénario qui a été envisagé déjà en 1978, donc on voit que c'est quand même un phénomène qui n'est pas tout récent. Et donc c'était un consultant de la NASA, donc Donald Kessler, qui avait proposé ce scénario. Donc le scénario en question, c'est que le volume des débris spatiaux en orbite, il est dû à la pollution spatiale. Il atteint aujourd'hui un seuil au-dessus, enfin dans le scénario justement, il atteint un seuil au-dessus duquel les objets en orbite, ils sont tellement fréquents qu'ils sont tout le temps heurtés entre eux ou par d'autres débris et ils se brisent en plusieurs morceaux. Et c'est un peu un phénomène exponentiel. Enfin, plus il y a de débris, plus ils se heurtent, plus les débris, enfin, se dégradent et c'est comme ça une croissance exponentielle de ces débris. De plus en plus petits. Et donc, on a des probabilités d'impact de plus en plus nombreuses avec une réaction en chaîne. Donc, au-delà d'un certain seuil de débris, on va avoir un scénario un peu catastrophe qui rendrait impossible l'exploration spatiale et l'utilisation des satellites artificiels, puisqu'il y aurait tellement d'objets en orbite qu'on ne pourrait plus accéder à l'espace au-dessus de notre planète.
Ok, mais imaginons, là, on aurait la possibilité d'envoyer ces déchets vraiment plus loin que juste en orbite autour de la Terre. Qu'est-ce que vous en penserez, vous, de ça? Du coup, qui ne mettrait pas en danger tout ce qui se passe en orbite?
Moi, je trouve que c'est un peu repousser le problème, quoi. On les met quelque part et puis on espère que ça ne va pas nous toucher plus tard. Et moi, je pense qu'il y a toujours un retour, entre guillemets, de la médaille. Je pense qu'il y a... Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve que déjà... Comme tu disais, Pauline, si ça met en danger nos prochains vols dans l'espace, déjà, c'est un énorme problème. Et puis, je pense qu'on pourrait trouver d'autres alternatives que les jeter loin et se dire, bon, bah, ça y est, c'est assez loin pour que ça ne nous atteigne pas, quoi.
Oui, parce qu'en vrai, mettre nos déchets dans l'espace, c'est un peu repousser le problème. Ça ne ferait pas changer nos habitudes par rapport à la production de déchets et à nos modes de vie. Donc, à mon avis, il faut plutôt voir le problème à sa cause et changer à notre échelle nos habitudes plutôt que repousser le problème en envoyant en dehors de la Terre nos déchets.
Après, moi, je trouve qu'on a aussi déjà bien endommagé notre planète pour ne pas essayer d'endommager les autres. Tout ce qu'il y a autour, on ne va pas commencer à polluer tout notre système solaire et tout... toute la galaxie, parce que là, on s'en sortirait jamais.
Mais aussi, il faut penser à quel coût, enfin, comment on va les envoyer, ces déchets. Si ça se trouve, construire des navettes ou la consommation, le carburant qui utilise les différentes fusées pour envoyer ces déchets dans l'espace, je pense que le coût va être énorme et la consommation en ressources également.
Bah justement, pour rebondir là-dessus, donc, en fait, ce serait impossible d'envoyer tous nos déchets en dehors de la Terre, dans l'espace, parce que selon un rapport de 2018, l'ensemble de l'humanité produirait chaque année environ 2 milliards de tonnes de déchets. Donc, je parle des déchets ici domestiques. Et cependant, à l'heure actuelle, le plus puissant lanceur dans le monde pour aller dans l'espace, il pourrait emporter que 64 tonnes d'un coup de déchets, ce qui représente plus de 31 millions de fusées. Donc, il faudrait plus de 30 millions de fusées pour mettre toutes nos poubelles dans l'espace. Donc, c'est clairement impossible. Vous imaginez bien l'impact environnemental pour construire toutes ces fusées, pour les envoyer, le nombre de carburant qu'il faudrait. Donc, ce serait pas du tout écologique. Plus, niveau financier, c'est pas du tout possible et viable économiquement de construire toutes ces fusées. Et si on va pas investir de l'argent pour faire de la recherche, pour avoir des fusées plus performantes, ce serait complètement... irraisonné. Donc pour moi, la solution, elle réside clairement pas dans cette solution.
Ok, après, moi, le truc, vous parlez beaucoup des déchets, un peu tout ce qui est les déchets plastiques et tout, mais moi, je voulais parler un peu plus particulièrement des déchets nucléaires, parce que comme on le sait, le nucléaire est une énergie qu'on utilise de plus en plus, et surtout le problème du nucléaire, c'est que ça fait beaucoup de déchets qui sont très néfastes, et qui, là, pour l'instant, nous, sur Terre, on les enterre. Sauf que, pour moi, les intérêts, c'est pareil, c'est un peu repousser le problème, alors que je vois pas en gros en quoi ça serait si différent de les envoyer dans l'espace plutôt que les enterrer sur Terre, parce qu'au bout d'un moment, on pourra plus les enterrer sur Terre, parce que je pense que on arrivera à un point où ce sera trop dangereux les enterrer sur Terre. Et du coup, on en ferait quoi de ces déchets? On arrête le nucléaire, on arrête les énergies, enfin, ça serait complètement ouf.
Justement, c'est vachement intéressant que tu parles de ça parce que tu n'es pas le seul à t'être posé cette question. La NASA, en fait, elle avait envisagé cette solution dans les années 1970. Donc, depuis, elle a revu son positionnement. Mais elle pensait que ça pouvait éventuellement être une bonne alternative pour se débarrasser des déchets nucléaires. Mais le problème, cette option, elle a été abandonnée parce que ça représente un risque énorme. Imaginez que la fusée elle a un problème pendant le lancement, parce qu'on en voit quand même des fusées qui explosent quand elles décollent ou des choses comme ça. Enfin, les déchets nucléaires, même si on ne sait pas trop comment les gérer, on est mieux à les stocker sur Terre, même sous la Terre, où on ne les sort pas, mais au moins on est sûr qu'ils ne vont pas sortir tout seuls. Alors que si on les envoie dans l'espace, ok, quand ils seront dans l'espace, on sera tranquille, mais le temps de les acheminer jusque là-haut, ils peuvent être en contact avec nous et ce serait dramatique.
Puis aussi, si on regarde, il y a eu tellement d'accidents avec le nucléaire, Fukushima ou Tchernobyl ou... Enfin, je pense que le nucléaire, ça représente une énorme source de problèmes et d'accidents. Et déjà aussi, on a d'autres alternatives pour produire de l'énergie qui sont plus durables. Et je trouve qu'on ferait mieux de se concentrer là-dessus et d'aller vers des nouvelles formes dépenser dans ce genre d'énergie plutôt que essayer de continuer sur notre mode de fonctionnement qui nous oblige à enterrer des déchets nucléaires qui peuvent ressurgir pour régler des problèmes environnementaux. Et il ferait mieux d'aller dépenser de l'argent vers d'autres sources d'énergie, je pense.
Ok, bien, merci beaucoup pour avoir parlé de tout ça. Maintenant, on va parler de notre rubrique. On va parler du tourisme spatial. Donc, est-ce que déjà, on pouvait expliquer c'est quoi le tourisme spatial avant de parler du sondage ?
Eh bien, déjà, il faut savoir que le 16 septembre 2021, SpaceX, il a envoyé, l'entreprise, du coup, a envoyé 4 touristes dans l'espace pour la mission Inspiration 4. Et donc, je pense que c'était important sur une rubrique d'en parler, du tourisme spatial. Donc je vais laisser Ahmed nous expliquer ce qu'est le tourisme spatial.
Le tourisme spatial, c'est quoi ? Le tourisme spatial, c'est l'activité touristique qui regroupe l'ensemble des expériences liées à l'espace, comme par exemple les entraînements, les vols 0G, les vols 0G en avion. Toutes les activités louées qui ne sont pas professionnelles, donc c'est du tourisme spatial. Mais c'est quelque chose de très spécifique vu que c'est un tourisme qui est réservé entre guillemets aux riches, vu que pour vous donner un ordre d'idée, un vol 0G ça coûte entre 6 000 et 8 000 euros. Pour à peine 5 minutes de non-gravité. Ça coûte encore plus cher, mais ça on le verra après, pour des vols dans l'espace. Cependant, le tourisme spatial, ce n'est pas un phénomène nouveau. Le premier tourisme spatial, c'était un milliardaire américain qui s'appelle Joseph Tito et qui a payé 20 millions de dollars pour aller dans l'espace, dans l'ISS. Et c'est un phénomène donc qui n'est pas nouveau et qui n'arrête pas de s'expandre et qui n'arrête pas d'augmenter. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui.
Et bien du coup, j'ai fait un petit sondage du coup pour les UTC1 pour parler de tout ça. Et je pense que tout le monde peut s'en douter, mais la question c'était: pensez-vous que le tourisme spatial est intéressant? Et eh bien 80% pensent que non. Et donc, du coup, quand je demandais pourquoi ils pensaient que non, les personnes d'abord pensent, en particulier 85% des personnes qui ont voté non, c'est pour des raisons écologiques. 55% c'est pour des raisons d'inégalité. Comme vous l'avez dit, c'est super riche, super cher d'aller dans l'espace, donc c'est priorité aux riches. Et aussi, 75% disent que ce n'est pas une priorité d'aller dans l'espace parce que, en soi, il y a tellement de problèmes sur Terre. Alors, à quoi ça servirait qu'on aille visiter l'espace ?
Alors, moi, je voulais parler, réagir à ce sondage. J'ai fait des petites recherches sur le tourisme spatial et sur, en particulier sur la pollution que ça représente. Parce qu'en termes de quantité de carburant, avec le kérosène ou l'hydrogène aussi, on remarque qu'un vol est extrêmement coûteux et pollue énormément. Par exemple, on pourrait estimer qu'un vol complet fait par SpaceX dans la fusée Falcon 9, ça représenterait 1150 tonnes de CO2 en termes d'émissions, ce qui est l'équivalent de 138 ans d'émissions d'une voiture qui ferait 15 000 km par an. Donc c'est énorme. Aussi, il y a la pollution de la suie. En fait, on estime que pour, par exemple, 1000 vols, il y aurait 600 tonnes de suie qui resteraient dans la stratosphère pendant au moins 10 ans. Donc je pense qu'il y a déjà des énormes problèmes de pollution et aussi de sécurité. Je pense qu'on n'a pas... déjà que pour des questions scientifiques, on hésite, on met 10 ans à préparer nos astronautes, nos scientifiques pour aller dans l'espace. Et même certains astronautes n'iront jamais dans l'espace parce que c'est trop dangereux. Alors je ne vois pas pourquoi... on devrait polluer et en plus mettre en danger beaucoup de gens juste pour du tourisme.
En parlant de pollution, pour un peu rebondir, et aussi d'inégalités, il n'y a pas que les inégalités sociales du fait qu'il n'y a que les riches qui peuvent y aller. Il y a aussi inégalités vis-à-vis de la pollution. lorsque le 20 juillet, Jeff Bezos il s'est envolé dans les airs avec ses trois invités, ils ont émis en 10 minutes 75 tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent de la consommation en énergie de trois familles américaines pendant un an. C'est-à-dire il y a vraiment une inégalité, mais partout, économique, vis-à-vis de la pollution. Et donc je ne sais pas si c'est un phénomène très spécial qui est très loin de notre réalité, nous pauvres humains avec les deux pieds sur terre. Mais donc c'est pour ça que non seulement ça ne crée pas des inégalités sociales, mais également des inégalités vis-à-vis de la planète.
Moi, après, je trouve qu'il faut arrêter d'être un peu hypocrite. Franchement, dites-moi si vous êtes honnête ou pas, moi je vais essayer de l'être. Demain, on me dirait, ok Étienne, t'es milliardaire, tu peux partir dans l'espace quand tu veux, tu as assez d'argent pour le faire, ça va, aucun problème. Tu vas pouvoir réaliser ton rêve qui est d'aller dans l'espace. Ok, ça va polluer, mais tu vas réaliser ton rêve. Genre vraiment, c'est ton rêve de toute une vie. Est-ce que vraiment, vous, honnêtement, vous direz, oh non, ça va polluer, oh non, je ne veux pas être prioritaire par rapport aux autres? Moi, genre, je sais que pour l'instant, ça n'arrivera pas et que ce n'est pas ma priorité, puisque bah, pour l'instant, je m'en fiche un peu de visiter l'espace et je n'ai pas envie d'être riche pour ça. Mais si vraiment, du jour au lendemain, j'en avais l'occasion, franchement, je ne dirais pas non tout de suite, quoi. Ça, c'est sûr.
Moi, je te réponds honnêtement. Et moi, je pense que... Alors, certes, ça pourrait être un rêve, voilà, mais je pense que, honnêtement, je dirais non, ou alors je poserais la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire là-haut pour aider à la recherche, etc. Ou je sais pas, parce que je me sentirais tellement genre inutile de juste pour mes beaux yeux regarder la Terre de là-haut. Je sais pas, je pense que j'essaierais au moins de trouver quelque chose à faire d'utile, entre guillemets.
Alors moi, par contre, je suis totalement d'accord avec Étienne. Par exemple, moi, depuis tout petit, je suis passionné par l'espace avec tous les films de science-fiction que j'ai pu regarder. Et si on me propose, si j'ai assez d'argent pour faire du tourisme spatial, même si je sais que ce serait injuste, que ce soit par rapport à l'écologie ou par rapport à toutes les personnes qui n'ont pas les moyens pour se payer un voyage dans l'espace, j'accepterai tout de suite, sans hésiter, mais sans même poser de conditions ni quoi que ce soit.
Donc, si je pars de votre principe, vous pensez qu'on devrait interdire complètement le tourisme spatial, que c'est inutile?
Pour moi, oui, on devrait clairement l'interdire, parce que je vais peut-être être un peu forte dans mes propos, mais pour moi, c'est un peu un caprice de riche, dans le sens où c'est pas du tout des problèmes essentiels. On sait que ça pollue énormément. Et le peu de gens qui partent dans l'espace, ils ont été formés pendant des années, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est pour la bonne cause, pour faire avancer bah, des choses. Ils ont une mission particulière. Et y aller sans but, bah, ouais, bah, comme j'ai dit, c'est un caprice de riche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Moi, je suis un peu d'accord avec vous tous, parce que, pareil, je suis passionné d'espace. Ça m'a toujours fait rêver d'être au-dessus de tout, être dans l'espace, ne pas sentir la gravité. Toutes ces choses qu'on voit comme a dit Edgar, dans les films, ça doit être une sensation incroyable. Mais en même temps, quand on est réaliste et qu'on pense à toutes les conséquences, ben ça fait réfléchir deux fois. Je pense que le problème, c'est pas vraiment le tourisme spatial entre guillemets, c'est surtout d'investir dans le tourisme spatial et de vouloir que tout le monde commence à faire du tourisme spatial, comme si on prenait l'avion ou quoi. C'est un projet totalement futile, et tout l'argent qu'on y investit, il pourrait être réinvesti dans des projets beaucoup plus innovants et beaucoup mieux pour notre planète.
C'est surtout que là, il n'y a pas de réel but, à part l'envie des gens de voir qu'est-ce que ça donne là-haut. Encore, si on avait une base, je ne sais pas, sur la Lune, où tu peux y vivre, ou je ne sais pas, où il y a des choses qui sont mises en place, peut-être, si c'est pour faire le trajet. Mais là, parce que par exemple, l'avion, c'est, au début, c'était considéré comme quelque chose pour un loisir de riche, entre guillemets. Et maintenant, c'est devenu juste un moyen de transport. Les gens, ils prennent l'avion pour aller d'un point A à un point B, donc dans un but. Et certes, ça pollue, mais c'est pour une certaine raison, alors que là, c'est vraiment juste une activité. Mais sauf que cette activité, elle a des énormes conséquences. Et moi, je pense que je suis un peu de l'avis de Pauline qu'il faudrait l'interdire, parce que après, il y aura trop de dérives et les gens auront. On va tolérer le fait de polluer énormément, alors que même sur Terre, on n'arrive pas à s'en sortir avec tous les problèmes de pollution. Alors si on rajoute en plus le tourisme spatial, pardon, je sais pas où on va aller. Hein.
Ok. Et ben on va enchaîner par la prochaine rubrique, donc qui est autour de la colonisation de Mars, oui, bien sûr, je le savais. Alors, donc, Mars, si vous ne le savez pas, c'est une planète, hein, ce n'est pas un gâteau sucré, même si je trouve ça succulent. Là, on va parler de la planète. Du coup, la planète est une. Ok, ça fait rire tout le monde, ok, tant mieux. Du coup, la planète se situe assez loin de la Terre, en tout cas beaucoup plus loin que la Lune, et pour l'instant, il n'y a aucun voyage qui a été fait. Mais il y a beaucoup de projets qui parlent de coloniser Mars. Du coup, juste avant qu'on laisse parler les personnes qui sont intéressées sur ça, j'aimerais juste vous parler un peu du sondage qui a été fait. J'ai fait un sondage où je demandais aux gens est-ce qu'ils pensent qu'on pourra coloniser Mars d'ici la fin du 21e siècle, donc d'ici 2100. Et c'est très très serré, c'est presque du 50%, mais on penche un peu plus vers du non. Il y a quand même 50% qui pensent que non, on n'arrivera pas à coloniser Mars d'ici 2100. Et je voulais savoir, du coup, pour les personnes qui pensaient oui, quand est-ce qu'on pourra coloniser Mars? Et c'est plutôt assez serré. Les personnes pensent plus soit fin 2050, soit fin 2070 ou fin 2100. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu, du coup, préciser un peu tout ça, coloniser Mars, les problèmes que ça engendre, etc.
Alors, la colonisation spatiale, qui était auparavant quelque chose d'imaginaire, qui relevait de la science-fiction, devient maintenant de plus en plus réaliste, comme beaucoup de milliardaires, comme Elon Musk avec SpaceX ou John Bezos, on remarque que ce projet peut être possible et peut être réalisable. Mais est-ce vraiment le cas ? Par exemple, j'ai remarqué beaucoup d'articles avec des différentes phrases un peu alarmistes et défaitistes, mais réalistes pour certains, comme « la Terre est perdue »,« quittons-la » ou même « et si la colonisation spatiale était le seul développement durable possible ?» Je ne sais pas ce que ça vous évoque.
Moi, je pense que la colonisation sur Mars, ça peut être une très bonne idée pour, pas pour régler beaucoup de problèmes qu'il y a sur Terre, mais plutôt pour les esquiver. Parce que par exemple, vas-y, qu'est-ce que tu veux prendre la suite?
Ça m'a un peu perturbé ce que tu as dit, c'est-à-dire esquiver les problèmes. Tu penses que on devrait tout lâcher ici et aller là-haut parce que c'est plus simple, autant se barrer, de toute façon la planète elle est finie. C'est très alarmiste vis-à-vis de la Terre et du fait qu'on pourrait la sauver, quoi.
Non, j'ai pas dit ça, mais je me dis juste que si dans 100 ou 200 ans, on n'a toujours pas réglé le problème de la crise écologique et que, enfin, environnementalement sur Terre, ça serait de plus en plus catastrophique et qu'on arrive à créer une atmosphère sur Mars pour pouvoir y vivre, de l'eau pour pouvoir y vivre, ça serait un peu une solution de dernier recours, mais vraiment d'ultime dernier recours.
On entend que notre dernière chance de survie dans 100 ans, 200 ans, du coup, face aux différents problèmes climatiques que nous faisons face, causés par notre style de vie, notre quotidien très polluant, c'est la colonisation spatiale qui nous reste en fait pour survivre. Du coup, je trouve ça assez triste de se dire qu'on va utiliser les dernières ressources qu'on a, on va épuiser tout ce qu'on a pour aller quelque part d'autre. Mais est-ce que ce quelque part d'autre, du coup, Mars, un cercle vicieux ne va pas s'installer, puisqu'on va sur Mars coloniser, du coup, pour survivre, mais est-ce que là-bas, on ne va pas polluer, du coup, dénaturer la nature de Mars et au final se retrouver au même stade en disant « faut qu'on fuit ». Je pense qu'il faudrait faire un travail de fond avant vraiment installer un protocole de développement durable possible dans chaque nation pour pouvoir du coup, ne pas fuir le problème en question.
Ouais, et en plus de ça, si dans 100, 200 ans, la planète, c'est finito, et que Mars, ben, c'est possible d'y aller, je pense vraiment pas qu'on va pouvoir transporter les 7-8 milliards d'habitants sur Terre, sur Mars, et qu'il y aura beaucoup de gens laissés à l'abandon, et pareil, inégalité sociale et tout, ça sera que les plus riches qui iront sur Mars, sachant que je nous compte, nous, personnes de, bah, vivant en Europe, ayant un mode de vie plutôt stable, comme dans les personnes riches par rapport à tout le reste de la Terre, on est sûrement compté dans les, allez, je vais dire 5% plus riches sur Terre, pardon.
Moi, en fait, là, on parle de coloniser Mars, ça me fait un peu rappeler de ce qu'on avait parlé à notre dernière rubrique. On avait parlé, le fait de refaire revivre les mammouths. Et ben, moi, je trouve que c'est pareil, genre, c'est science-fiction, mais à un point, genre, je trouverais ça ouf. Enfin, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ce serait la chose dans l'histoire la plus incroyable du monde. Qu'on change de planète, que l'espèce humaine change de planète. Genre, je trouverais ça incroyable, moi, et franchement, je trouve ça super facilement. Moi qui n'ai pas non plus un méga grand fan de l'espace, je trouve que si on arrive à faire ça, mais ça serait juste un truc de ouf. Et s'arrêter là, dire maintenant, arrêter de chercher juste pour dire ouais, mais il y a des personnes qui n'ont pas survécu, etc. et tout. Bah, déjà aujourd'hui, des gens survivent pas parce qu'ils sont pauvres, entre guillemets. Donc c'est des problèmes qui vont jamais s'arranger, et je vois pas pourquoi on devrait juste arrêter de vouloir coloniser Mars juste parce que bah, malheureusement les gens ne survivront pas, mais bon, dans tous les cas, il y a certaines personnes qui survivront pas, quoi.
Moi, je pense pas qu'il faut genre arrêter complètement de penser à la colonisation de Mars, mais je pense que ça mérite quand même aussi un petit peu de prendre un peu du recul et se dire bah déjà pourquoi on va aller là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire si on y trouve de la vie? Enfin, toutes les questions d'éthique autour de cela, je pense que c'est important de se les poser avant de partir et explorer. Mais de toute manière, dans tous les cas, là, on n'est pas à ce stade-là. Et je pense que il faut juste un peu prendre du recul.
Ok, du coup...
Oui, en effet, selon André Lebeau, ancien directeur d'un grand comité spatial, les activités commerciales, si on prend par exemple Elon Musk avec SpaceX, liées à la colonisation de l'espace, restent très limitées et se trouvent sur des niches assez fragiles. Donc elles se basent sur des prévisions qui ne sont point possible selon lui. De plus, les technologies nécessaires sont extrêmement complexes et coûteuses en termes de ressources et en termes d'argent. Et ça ne garantit en aucun cas, puisque ce sont principalement des prévisions et des plans, qu'elles marcheraient de façon satisfaisante. Il souligne également que de nombreux lieux habitat sur Terre ne sont pas utilisés, que de nombreuses ressources restent non exploitées, alors que le faire serait bien plus facile que de coloniser Mars.
Par rapport à tout ce que tu as dit, et même moi je suis un peu toutes les progressions et toutes les recherches qui sont faites à propos de Mars, je suis plutôt optimiste sur la recherche et sur la capacité humaine d'innover et de créer. Il n'y a jamais eu autant d'innovation que dans les quelques dernières décennies avec Internet, les ordinateurs. Je pense que la recherche et toute l'innovation qui est faite autour de l'espace, elle nous permettra, et j'espère, que d'être encore vivant le jour où il y aura le premier homme sur Mars. La preuve, je viens de me rappeler, je suis même un robot sur Twitter qui est sur Mars. Le robot envoyé par la NASA qui est sur Mars prend des photos régulièrement et elles sont postées par, euh, par la NASA sur Twitter. Et donc, on a vraiment un robot qui nous envoie des photos depuis Mars et qui parle à la première personne, qui dit « Salut, là, je viens de faire quelques kilomètres. Vous pouvez voir toutes les roches. » Et c'est fou d'imaginer que nous, on est là sur Terre et qu'il y a un robot qui a été envoyé à des milliers de kilomètres de nous sur une planète vide en train de prendre des photos. Enfin, c'est incroyable. Mais du coup, ouais, Mars a étudié et a continué à faire des recherches dessus.
Au pire, je propose en combiner du tourisme sur Mars. Hein, au pire, pourquoi pas, à partir de là...
Peut-être un jour, tourisme spatial, c'est l'espace. Hein, donc...
En vrai, je me dis, est-ce que franchement, vous pensez qu'il y a 40 ans, on aurait pu penser qu'on pourrait faire du tourisme sur Mars ? Franchement,
il y a 40 ans, on ne pensait même pas qu'on allait avoir Internet, tout ça. Donc non, mais là, en vrai, on peut vraiment s'imaginer...
Tu vois, même du tourisme dans l'espace, en soi, qui aurait imaginé qu'on aurait fait un vol en G0, tu vois, genre maintenant, notre époque, tu vois. Je dis, les innovations vont tellement vite que...
Ouais, on n'est pas prêt en fait. On n'est juste pas prêt. Mais du coup, Mars, un sujet à étudier et à garder. En attendant, on se laisse une petite pause musicale pour reprendre nos esprits. Et on se retrouve tout de suite.
Donc on reprend après cette petite pause musicale. Donc on a beaucoup parlé de Mars et je pense que c'est important premièrement de préciser pourquoi c'est la planète Mars qui a été choisie. Donc on a plusieurs facteurs comme par exemple le fait qu'il y ait beaucoup de découvertes qui ont été réalisées sur Mars au cours du 19e siècle qui suggèrent que la planète a été autrefois capable d'abriter des écosystèmes et qu'elle pourrait encore en héberger aujourd'hui. Aussi elle se trouve juste après la Terre par rapport à son placement par rapport au Soleil, donc c'est la quatrième planète la plus proche du Soleil. Elle a aussi une durée de journée relativement proche de celle de la Terre, donc les journées sont seulement 40 minutes plus longues que celles sur la Terre. C'est dû à sa vitesse, qui est quasi similaire à la vitesse de la Terre autour de son axe. Et on a aussi le fait que malgré sa taille, sa superficie équivaut à peu près à celle de tous les continents de la Terre réunis. Donc théoriquement, on aurait une surface habitable similaire à celle de la Terre.
Donc nous comprenons pourquoi Mars est la planète A ici, du coup, de conquérir pour notre future planète si possible. Mais est-ce qu'il n'existe pas des problématiques, des dangers, des obstacles qui nous empêchent d'habiter actuellement sur Mars ?
Si, justement, on a plusieurs limites, premièrement physiques. Donc, on a l'atmosphère sur Mars qui n'est pas du tout pareille que celle sur la Terre. Donc, on a une atmosphère qui est assez fine. Et donc, il y a plusieurs transformations qui seraient nécessaires. Donc, premièrement, la reconstruction de cette atmosphère qui pourrait avoir lieu selon plusieurs scénarios comme importer du méthane ou de l'ammoniac. On a aussi le réchauffement climatique, donc on devrait réchauffer Mars pour que d'éventuelles vies puissent s'installer sur cette planète. Et donc, pour ça, on devrait augmenter l'effet de serre. Mais cela implique justement une atmosphère dense. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Mars a une atmosphère assez fine.
Justement, précédemment, j'ai vu un article sur Elon Musk qui affirmait qu'en envoyant une bombe nucléaire sur Mars, on pourrait réchauffer du coup la température de Mars. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça fou. Parce qu'ils vont envoyer une bombe nucléaire qui en réalité pollue, en fait, tue des vies. Donc, est-ce que la vie sera possiblement possible après l'installation de cette bombe nucléaire ?
Après, j'ai pas fait d'études sur la question, et donc je peux pas te dire si ce sera bon ou pas, mais d'après de ce qu'on sait de la bombe nucléaire et de ce que ça engendre, jusqu'aujourd'hui, il y a encore les endroits où il y a eu des bombes nucléaires, il y a encore des radiations qui restent, et donc ça reste dangereux pour la vie humaine. Et c'est une technologie qui, entre guillemets, est nouvelle, vu qu'on l'a découverte pendant la guerre froide, et qui donc du coup on la maîtrise pas encore totalement, je trouve. Donc c'est un projet pas un peu fou, mais complètement fou.
Oui, pour moi il est vraiment audacieux. Mais je me dis que si vraiment on a une urgence climatique et il faut vraiment préserver la vie humaine, s'il fait cette action, parce que ça prend beaucoup de temps, voire des centaines d'années pour que la radioactivité soit vivable pour l'humain. Si on prend l'exemple de Tchernobyl, jusqu'à maintenant, on ne peut pas accéder à la zone sans un attirail compétent.
Bah oui, et d'ailleurs, c'est pas le seul problème justement qui nous empêche de coloniser Mars. Donc on devrait aussi faire face à d'autres soucis, comme par exemple la réactivation du cycle de l'eau. Donc même s'il y a certaines études récentes qui ont prouvé qu'il y aurait éventuellement de l'eau sur Mars, donc sous forme de calotte glaciaire, il me semble, il faudrait quand même relancer sur Mars le cycle de l'eau entre la Terre et l'atmosphère, c'est-à-dire recréer une hydrosphère. Et donc c'est des processus assez compliqués. Et moi, justement, je me demandais, est-ce que vraiment on a aujourd'hui la technologie et les moyens financiers nécessaires?
Justement, je pourrais répondre à ta question. Il y a beaucoup de détracteurs qui sont contre cette colonisation spatiale, dans la mesure qu'elle devient, elle est quasiment impossible et relève encore une fois de l'utopie. Si on regarde les hauts coûts technologiques, par exemple, la station spatiale internationale a coûté plus de 100 milliards de dollars sans aucun résultat immédiat. Et avec un budget pareil, on ne peut utiliser pour améliorer les conditions sur la Terre et ou même d'autres programmes spatiaux déjà existants. Pour le docteur Kate Cohen, un scientifique ancien spécialisé de la NASA, un ancien analyste du gouvernement des États-Unis, pense que la colonisation spatiale est trop chère et serait un gaspillage de temps énorme. Donc si même des personnes compétentes dans le domaine comprennent que c'est vraiment pour satisfaire des idées, je pense des idées assez folles de coloniser Mars, il faudrait peut-être penser de manière différente.
C'est vrai que même nous, on n'a pas toutes les informations sur le sujet, on ne sait pas tout, mais après, il y a des experts qui disent que non, il ne faudrait pas coloniser. D'autres, comme Elon Musk, qui est malgré le multimilliardaire qu'il est, une personne très intelligente et qui, je pense, est consciente de tout ce qu'il fait. Sinon, il n'en serait pas là où il est. Du coup, c'est très compliqué de notre part de se positionner sur la colonisation. Parce que, et même de plus pour des ingénieurs, là, nous, on ne veut pas tous travailler dans l'aéronautique, mais par exemple, si je pense à des ingénieurs à Super Aéro ou quoi, Si on leur demande oui, est-ce que vous pensez il faut qu'on arrête l'espace, bah ils vont tous vous dire bah non, par intérêt personnel, bien sûr, je pense premièrement parce que c'est dans ça qu'ils veulent travailler et c'est ça qu'ils veulent développer. Et donc c'est vraiment ça, il y a une question personnelle d'abord de est-ce qu'on veut voir le projet grandir, et mais il y a aussi une question de faut penser à la planète et faut pas penser qu'à soi, quoi.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il y a aussi un problème éthique que soulève la colonisation spatiale. À votre avis, devrions-nous envoyer sur Mars ?
Bah, des spécialistes, des gens qui ont été formés, des gens qui savent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur Mars, pas la première personne venue, parce que bah, je pense que vu comment ça coûterait cher, vu comment ça prendrait du temps, il faudrait que ce soit vraiment un vrai passionné, un gars qui donne tout pour la science, ou un gars ou n'importe qui, enfin, un gars ou une femme. Parce qu'il faut être, je pense que si on va là-bas, il faut être vraiment passionné, parce qu'on ne peut pas faire l'aller-retour facilement, quoi. Donc, en tout cas, moi, j'espère qu'on n'arriverait pas, enfin, je ne pense pas que d'ici la fin de 2100, personnellement, on arrivera à aller sur Mars. Mais si on y arrive, je prie pour que ce soit quelqu'un vraiment qui soit passionné, qui se connaisse vraiment beaucoup, j'en serais plus rassuré.
En parlant d'aller-retour, ça m'avait fait penser à un truc que j'avais lu, c'est que l'aller-retour sur Mars, il ne peut pas se faire comme ça, comme si c'était un aller-retour sur la Lune. Il y a un certain cycle, vu que ben, les planètes, elles tournent. Et donc, pour être sur le bon positionnement, pour pouvoir arriver sur Mars, il y avait un décalage de plusieurs mois. Donc encore plus de problèmes de logistique. Ça commence à chiffrer les problèmes, hein, pour aller sur Mars.
Oui, je suis complètement d'accord. Il faudrait du coup avoir un personnel formé, mais aussi un personnel prêt à prendre des risques, parce qu'il existe du coup des risques pour leur vie. Mais du coup, je pose un autre problème. Et si la Terre devenait non habitable un jour ? On va dire dans une semaine. Est-ce que tout le monde pourrait voyager, vraiment coloniser Mars ?
Bah non, pas tout le monde, mais...
Bah déjà, on n'aurait jamais assez de navettes spatiales, de fusées pour envoyer tout le monde. Donc il faudrait faire un choix très très sélectif, si ça arrivait. Après peut-être si ça arrive dans quelques décennies, quelques siècles, on aurait poussé l'innovation assez loin pour construire beaucoup de fusées, pour envoyer beaucoup, beaucoup de personnes. On ne pourrait jamais envoyer 7 milliards de personnes, 8 milliards, 9 milliards. Il faudra faire un choix très sélectif. Et j'aimerais qu'il soit fait équitablement s'il a été fait un jour ce choix, mais on ne va pas se mentir, ce sera les riches qui partiront. Hein. Ce sera les riches, c'est les riches qui ont le pouvoir, c'est les riches qui partiront et c'est tout. Il n'y a pas de débat.
Oui, je suis complètement d'accord. Le principe, les familles, les enfants d'abord, je pense, ne vont malheureusement pas s'appliquer. C'est pour ça que de nombreux spécialistes pensent que il faudrait établir des règles dès maintenant, des règles législatives, qui permettront d'éviter certains problèmes comme celui-là. Ou même d'autres problèmes en disant cette partie de Mars appartient à tel pays et du coup potentiellement créer de nouveaux conflits et problèmes. Donc il existe trop peu de règles qui régissent l'espace, seul lieu méconnu de tous, enfin méconnu si je peux dire de 60 personnes. Pour Daniel Hood, la directrice de Space and Ball, laisser ces différents choix législatifs aux entreprises et aux États les plus puissants relève d'un esprit impérialiste. Un tel mode de pensée ne pouvait conduire qu'à léser, ne pouvant conduire qu'à léser les générations futures. Oui, en effet, créer des lois et un système législatif du coup à cette future colonisation spatiale est vraiment nécessaire et adéquat à ce nouveau territoire est nécessaire, mais aussi très difficile puisque l'espace Mars est encore très méconnu. On ne connaît pas toutes les facettes de Mars.
Merci pour toute cette rubrique sur Mars. On va essayer d'enchaîner sur notre dernière rubrique. dont Étienne a parlé dans son sondage.
Non, je n'ai pas parlé pendant le sondage, mais en tout cas, Edgar va pouvoir nous en parler. Merci.
Voilà, donc moi, pour finir cette émission, je vais vous parler dans la dernière rubrique de l'ISS. Donc l'ISS, qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? Donc en gros, l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale, dont le projet a été lancé en 1984 par les États-Unis, dans un contexte de course aux étoiles entre les États-Unis et l'URSS. Suite à la chute de l'URSS et au vu des coûts exorbitants pour fabriquer l'ISS, les États-Unis ont invité l'URSS, puis plusieurs pays par la suite, comme la France, le Brésil, le Canada et le Japon, pour aider à construire la station. La station qui a ouvert ses portes en 2011, après plus de 20 ans de construction, et qui accueille donc aujourd'hui des équipages de 6 astronautes qui partent pour des missions de 6 mois dans lesquelles elles font des opérations de maintenance, mais surtout beaucoup d'expériences scientifiques. En effet, la station a surtout été créée dans le but de progresser dans tous les domaines scientifiques, mais surtout dans le domaine de la médecine, car l'absence de pesanteur dans l'ISS révèle beaucoup de phénomènes qui sont masqués sur Terre, ce qui permet aux scientifiques de faire des progrès monstres dans leurs recherches. Par exemple, Thomas Pesquet a dû étudier les effets de la perte de repères sur le cerveau, ce qui est un des effets de l'absence de pesanteur, mais aussi un des effets des maladies telles que Alzheimer ou Parkinson. Il y a aussi la chirurgie optique qui a fait de très grands progrès grâce aux recherches qui ont été faites sur l'ISS. Et depuis quelques années, l'ISS est axé évidemment sur la conquête de Mars, parce que c'est un peu le gros projet actuel. Les astronautes étudient surtout les effets de l'absence de gravité sur le corps humain, comme le trouble de la vue ou le vieillissement des cellules qui est bien plus rapide qu'avec de la gravité, et la perte de masse musculaire. Mais est-ce que le jeu en vaut-il la chandelle, je pourrais dire? En effet, l'ISS coûte très très cher. Par exemple, juste sa fabrication a coûté 150 milliards de dollars. Et de plus, chaque année, 100 milliards de dollars sont financés dans la station par tous les pays, enfin par beaucoup de pays dans le monde, dont 10 millions qui est investi par l'Europe.
150 milliards déjà rien que pour sa construction, plus 100 milliards par an, c'est des chiffres qui font peur, hein. Vraiment, c'est pour tout ça, pour 6 personnes dans l'espace qui font des expériences. Vraiment, est-ce que, comme pour reprendre ta phrase, est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Ben, pour moi, le jeu en vaut la chandelle, dans la mesure qu'on peut faire des découvertes scientifiques médicales, mais vraiment phénoménales, comme tu l'as cité. Je trouve ça génial qu'on puisse sauver ou améliorer la vie des êtres humains, dans la mesure que c'est pour la découverte et la santé.
Après, d'accord, pour la découverte et la santé, mais avec 100 milliards investis par an, on pourrait arrêter la faim dans le monde. Du coup, je pense qu'il y a un vrai problème d'éthique sur qu'est-ce qu'on doit faire de cet argent.
Oui, mais on pourrait aussi sauver des vies. Du coup, arrêter la faim dans le monde, je ne dis pas que ce n'est pas honorable, mais sauver des vies aussi, ça n'est pas négligeable.
Ouais, mais c'est quoi le pourcentage de différence entre sauver toutes les personnes qui meurent de faim par rapport à, d'accord, guérir des gens du cancer qui tuent énormément, ou par exemple des problèmes en ophtalmologie?
Après, c'est sûr que si ces 100 milliards par an étaient financés pour guérir la faim dans le monde, ce serait génial, mais il y a énormément de choses qui sont financées à bien plus de 100 milliards sur la Terre, qui sont financées pour des choses déjà bien moins honorables que les expériences réalisées à l'ISS. Donc voilà, il faut aussi dire que quand il s'agit de science, quand il s'agit de progrès et d'innovation, on ne compte pas l'argent qu'on met dedans, parce que voilà, c'est un peu une caractéristique de l'être humain de toujours progresser, de toujours évoluer. Et grâce à ces expériences, ça permet à l'être humain d'évoluer, de soigner des maladies ou autres. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs expériences qui sont réalisées sur, sur l'ISS qui pourraient être réalisées sur Terre. Par exemple, j'ai vu que Thomas Pesquet, quand il dort, est équipé d'un capteur ou de quelque chose comme ça, qui permet d'analyser un peu comment son corps réagit pendant son sommeil, parce que sur l'ISS, pendant 30 minutes, il fait jour, 30 minutes, il fait nuit, comme l'ISS tourne en orbite très rapidement. Et donc voilà, cette expérience, par exemple, on pourrait la réaliser sur Terre, le fait d'analyser le sommeil quand il y a 30 minutes de jour, 30 minutes de nuit, 30 minutes de jour, 30 minutes de nuit. Mais on le fait là-bas, donc c'est vrai que, par exemple, là, l'argent qui a été investi dans cette expérience, c'était pas vraiment nécessaire. Mais après, pour le reste, ces 100 milliards d'euros par an sont très bien investis.
Je suis d'accord. Après, je pense que toutes les expériences qu'ils font là-haut, je pense qu'ils sont pas cons, les ingénieurs qui gèrent tout ça. Ils essayent de faire le maximum d'expériences en bas parce que forcément, ça leur coûte moins cher. Argent avant tout, avant même l'écologie. Je pense que les expériences qui sont faites là-bas, elles peuvent être faites que là-haut. Mais vraiment, c'est quelque chose qui nous est tellement pas familier. Enfin, c'est tellement loin de nous, toutes ces expériences dans l'espace, sans gravité. Enfin, c'est très utopique et on veut faire des découvertes là-bas. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire plus de découvertes ici ? Ça reste un sujet à traiter et peut-être qu'un jour on va découvrir quelque chose dans l'espace qui va révolutionner toute notre vie sur Terre et donc on aura eu raison d'investir dans ça, donc c'est le temps nous le dira.
C'est vrai que moi toutes ces expériences vraiment ça me fascine parce que comme tu l'as dit c'est tellement loin de notre quotidien, de notre réalité que je trouve ça extraordinaire. Donc oui, et après, il faut savoir que le jeu en vaut aussi la chandelle, parce que l'ISS, elle a aussi plusieurs avantages. C'est-à-dire que sur l'ISS, il y a beaucoup d'astronautes de beaucoup de pays différents, soit des Européens, des Américains ou des Chinois. Ça permet de montrer que les plus grandes puissances mondiales économiques peuvent très bien coopérer dans un grand projet, dans un projet d'une ampleur immense. Et donc c'est important, parce que ça montre que cette coopération entre les grandes puissances, on en aura besoin, par exemple, pour des projets sur Mars ou des autres projets très gros. Et voilà, grâce à l'ISS, on voit que cette collaboration est possible.
Après, avec l'espace, il n'y avait pas que de la collaboration au début. Hein. Il y avait aussi, pendant la guerre froide, par exemple, entre la Russie et les États-Unis. Mais oui, en effet, je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de... On travaille ensemble pour un but commun. Qui est l'espace, parce que ça nous concerne tous, contrairement à d'autres questions ou quoi, où on n'est pas. Tous les pays ne sont pas inclus dedans. Alors que là, c'est vraiment un projet international et qui montre que quand les humains ils se soudent, on peut aller toucher les étoiles, pour utiliser l'expression. En tout cas, on arrive en fin d'émission. Merci à vous de nous avoir écoutés dans cette rubrique sur l'espace. Ça nous a fait très plaisir d'en parler. Beaucoup de personnes autour de la table sont intéressées par l'espace. Peut-être voudront travailler dans l'espace. Peut-être iront peut-être même dans l'espace. On ne sait jamais. Mais donc merci à vous de nous avoir écoutés. On remercie aussi la radio Graphite 94.9 FM de nous prêter ses locaux. Je vous invite à aller liker leur page Facebook. Pareil, c'est Radio Graphite 94.9 FM. Merci à tous nos chroniqueurs autour de la table. Et pour la suite, nous, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.